Pour ce mois de mai, c'est Laurence Venot qui nous rejoint. Laurence et son compagnon sont apiculteurs dans notre département et produisent le miel du creux du petit bois, issu de ruches où toutes les abeilles sont traitées comme des reines. Amoureux de nature et engagés dans sa préservation, ils favorisent au passage la survie de ces pollinisatrices précieuses dont dépendent de nombreuses espèces végétales et parmi elles une partie des fruits et légumes que nous consommons. Avec Laurence, nous allons donc parler abeilles dites domestiques, mais pas seulement. Les pollinisateurs sont nombreux, même si leur discrétion les rend souvent invisibles à nos yeux. Retrouvons donc Laurence, qui, sans surprise, en connaît un rayon. Laurence, bonjour et merci à vous de nous rejoindre par téléphone. Les abeilles sont certainement les pollinisateurs les plus connus du grand public, les plus appréciés aussi, car elles fabriquent, entre autres, le miel dont beaucoup aiment se régaler. Les abeilles, il n'y en a pas qu'une seule espèce. Alors, avec quelles abeilles travaillez-vous ?
Bonjour. Écoutez, nous, on travaille comme tous les apiculteurs. Avec l'abeille qu'on appelle communément l'abeille domestique, mmh. qui est l'Apis mellifera, mais qui est effectivement qu'une des représentantes de la grande famille des abeilles, puisqu'il y en a 950 espèces rien qu'en France.
Rien qu'en France.
Et 20 000 dans le monde.
D'accord. Concrètement, en quoi consiste l'apiculture ? Quel est votre rôle en tant qu'apiculteur ?
Notre rôle en tant qu'apiculteur, c'est vraiment un rôle d'éleveur. L'objectif de l'apiculture telle qu'elle est pratiquée communément, c'est que ça reste malgré tout la finalité de la production de miel, même s'il se développe de façon positive ces dernières années, ce qu'on appelle une apiculture de préservation, de protection de biodiversité. Donc il y a des ruches de biodiversité, par exemple, qui sont mises en place, où les gens cherchent à protéger, à favoriser l'installation de colonies qui, elles, ne sont pas destinées à une production.
Mais un peu comme quand nous, on installe finalement un nichoir pour les oiseaux, c'est à peu près l'équivalent.
C'est ça, oui, c'est ça, ou comme un hôtel à insectes, ou des choses comme ça. En fait, c'est pour un peu pour compenser des pertes d'habitat. Parce que l'abeille, même sous sa dénomination domestique, en fait, reste, n'est pas du tout domestiquée et est tout à fait à même de se débrouiller sans l'homme. Et il existe des colonies d'abeilles dites domestiques, mais qui vivent à l'état sauvage, on connaît, dans des troncs d'arbres, dans des creux, des anfractuosités, derrière des volets, dans des cheminées, etc. Et voilà, elles s'y installent et ils trouvent tout à fait leur compte.
Alors, comment s'occupe-t-on d'une ruche ? À quoi faut-il veiller particulièrement ? Comment est-ce que vous accompagnez vos insectes ?
En fait, c'est un travail très saisonnier, comme tout ce qui est lié à l'agriculture. Donc, il y a une grosse période qui va de la fin de l'hiver, donc de la fin février, début mars, jusqu'à l'automne, voilà, octobre. Tout ça étant très conditionné, évidemment, par le temps qu'il va faire, les températures, les précipitations, et notamment les températures, puisque l'abeille, l'hiver n'hiberne pas réellement, mais reste au sein de sa ruche, son activité va se réduire et elle va rester à l'intérieur. Donc l'apiculteur, sur cette période-là, il travaille plutôt en intérieur. Donc il prépare son matériel, il répare, il se documente, il continue à se former parce que voilà, on en apprend tous les jours. Et puis fin février, quand arrive cette période attendue avec impatience, il y a les premiers travaux qui vont arriver. Donc déjà, faire un état des lieux des colonies, comment ont-elles passé l'hiver, sont-elles en bonne santé, sont-elles toujours vivantes, sont-elles fortes, sont-elles faibles, voilà. Et puis après les premiers travaux, un peu de d'entretien, leur rajouter des cadres, un peu de prophylaxie, c'est-à-dire d'anticipation de sanitaire. Mmh. Voilà, et puis après, bah, ça va s'accélérer à la période à laquelle on est, enfin qui commence avec les grosses mielées, c'est-à-dire les grosses floraisons de printemps, où là, effectivement, il faut être sur le terrain parce que c'est là que vont se préparer les récoltes. Donc là, on va poser ce qu'on appelle les housses sur les corps de ruche pour augmenter les espaces de stockage des abeilles. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de travail sur ces périodes-là.
Et la récolte de miel se fait à quelle fréquence à peu près?
Alors ça, c'est tout à fait aléatoire selon que l'on récolte des miels toutes fleurs ou que l'on veut faire des miels floraux. Ici et dans toutes les régions de grande culture, il y en a une qui y a une récolte pour laquelle il n'y a pas de délai possible, c'est la récolte de printemps parce qu'il y a beaucoup de colza dedans. Donc ici, évidemment, il y en a énormément et c'est un miel qui cristallise très très vite. Tous les miels cristallisent, mais à une rapidité, à une vitesse différente. Le colza cristallise très très vite. Donc si on ne le récolte pas tout de suite, il va se figer dans les cadres, dans les alvéoles, et il sera ensuite impossible à extraire. Donc là, cette récolte-là est à faire impérativement à la fin de la floraison du colza. Passé celle-ci, si on veut continuer un miel toute fleur, on peut récolter de mi-juillet, fin juillet à fin août, voilà, selon qu'on a des floraisons plus ou moins tardives, selon les endroits et puis les pratiques qu'on a, qu'on veuille laisser plus ou moins de miel aux abeilles. Enfin, voilà, ça va dépendre un peu, encore une fois, des ressources, des lieux. Voilà. Il y a les régions, par exemple, où il y a de la bruyère, on va avoir ou du sarrasin, on a des récoltes beaucoup plus tardives que dans d'autres secteurs. Puis, si on veut des miels floraux, par contre, comme par exemple l'acacia, en ce moment, c'est la floraison de l'acacia, donc on a posé des housses vides au début de la floraison et on va récolter juste à la fin de la floraison pour essayer d'avoir un miel le plus pur possible.
Alors, l'élevage, comme vous le dites, d'abeilles est quand même assez particulier. Quel rapport vous entretenez avec ces insectes?
Bah écoutez, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais nous, on est vraiment amoureux des abeilles avant tout. On a commencé vraiment par avoir une ruche pour avoir un contact avec la nature, pour travailler au plus près d'elle, et parce que bah, l'abeille est vraiment au cœur même de cette nature, dans cette chaîne de biodiversité. Donc ça, c'est vraiment la première, nous, c'est notre première motivation, c'est notre première passion. C'est ça, ce sont des insectes sociaux, donc c'est assez fascinant. C'est un peu comme les univers de fourmis, c'est des colonies intelligentes. Enfin, intelligentes, je ne sais pas si c'est un terme rigoureux scientifiquement, mais en tout cas, avec des structures organisées très, 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 très fascinantes et qu'on n'a pas encore fini de comprendre. Donc, c'est un univers très, très vaste.
Alors, les populations d'abeilles sont depuis plusieurs années maintenant en déclin. Est-ce que vous-même vous le constatez et à quoi ce déclin pourrait-il être dû?
Ben, les causes maintenant sont connues, hein. Elles sont multiples, c'est vraiment plurifactoriel et elles peuvent interagir entre elles. Nous, on l'observe, oui et non, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Ça dépend des facteurs. Alors, il y a les facteurs extérieurs qui sont plus ou moins médiatisés, des prédateurs, des maladies. Voilà, il y a le varroa, qui est un acarien qui a été introduit il y a longtemps et puis qui affaiblit beaucoup beaucoup les abeilles, mais qui lui-même aussi favorise l'entrée de maladies. Il y a évidemment le frelon maintenant à pattes jaunes, dit asiatique, qui fait beaucoup sensation, voilà, qui est un des prédateurs, qui peut faire beaucoup de dégâts selon les endroits. Voilà, bon, ça c'est des causes extérieures. Après, il y a des causes récurrentes. Il y a eu vraiment tous les grands problèmes liés aux pesticides, dont certains ont été interdits après de longs combats sur notamment les néonicotinoïdes. Voilà, bon, il en reste. Et puis, il en reste, par exemple, il y a des études qui ont montré que même certains produits qui n'étaient pas des insecticides, mais affaiblissaient les colonies. Et puis, il les rendait plus vulnérables. On n'a plus forcément, sauf vraiment mauvaise pratique, mais qui reste très exceptionnelle, on n'a plus aujourd'hui d'empoisonnement massif comme on en a vu à une certaine période, mais on a des affaiblissements récurrents et beaucoup plus insidieux des colonies, ce qui fait qu'on a des pertes, des affaiblissements, des pertes de production, des colonies qui ne vont pas passer les saisons, etc. Mais le plus gros problème, à mon sens, reste le manque de ressources mellifères. c'est-à-dire un appauvrissement vraiment de la biodiversité. Les abeilles ont besoin de beaucoup de pollen pour élever leurs larves. Elles ont besoin de beaucoup de ressources qui vont leur permettre de faire du gras, voilà, de bien résister, de passer l'hiver. Et il y a des études qui ont montré que ça leur permet, c'est aussi ça qui les rendait d'autant plus vulnérables aux pesticides. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros problème, c'est la baisse de la biodiversité florale générale.
Alors, les associations de protection de la nature ont évoqué des risques de disparition des abeilles, une disparition qui aurait des conséquences insoupçonnées. Et là, on touche au rôle essentiel des pollinisateurs. Alors, quel est-il ce rôle ?
Alors, le rôle des pollinisateurs, parce que là, comme on l'a dit un petit peu au début, il n'y a pas que l'abeille domestique dont on parle, qui, elle, est un peu, éventuellement encore être assez préservée, puisque bah, comme c'est de l'élevage, on peut renouveler bah, régulièrement les colonies, même si c'est difficile. Ça reste faisable, c'est pas forcément viable économiquement, mais c'est faisable. Les insectes, les pollinisateurs sauvages sont beaucoup, beaucoup plus vulnérables et ont tous un rôle essentiel dans ce qu'on nomme la pollinisation, c'est-à-dire la fécondation des plantes qui donnent derrière fruits et légumes, qui permet la reproduction des plantes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois me souvenir que c'est à peu près 80% de la pollinisation qui se fait de cette façon. Le reste, sur l'alimentaire, hein, le reste étant par le vent, quoi. Et là, ça couvre l'abeille, donc toutes les abeilles, mais aussi les bourdons, les guêpes, les mouches. Enfin, les bourdons sont des abeilles, mais les guêpes, les mouches, les papillons, voilà, et y compris les frelons, enfin, toute une chaîne d'insectes divers et variés, qui sont très très importants.
Les jardiniers amateurs, les collectivités, parfois même les entreprises font souvent de gros efforts pour attirer ces pollinisateurs. Comment est-ce qu'on peut les favoriser au jardin, leur donner un petit coup de pouce ?
Alors ça c'est vraiment essentiel parce que nous on a souvent des demandes de gens qui disent on aimerait bien mettre une ruche chez nous ou est-ce que vous pouvez mettre une ruche chez nous, on voudrait aider les abeilles parce que voilà, on a beaucoup entendu parler de leur disparition. Encore une fois, il ne s'agit pas d'aider que l'abeille domestique, mais tout cet ensemble d'insectes pollinisateurs. Le mieux par rapport à ce dont on parlait de manque de ressources, bah, c'est de fleurir, de semer, de planter, et même surtout de limiter les coupes, les débroussaillages. Voilà. Donc on peut semer des plantes mellifères, annuelles, bisannuelles, vivaces, il y en a beaucoup. On peut laisser fleurir ces plantes aromatiques, on peut mettre il y a des arbres, des arbustes, des haies sauvages avec des espèces locales de préférence, et puis surtout en évitant les tailles un peu radicales. Et puis sur les pelouses, on peut essayer de favoriser, de laisser des zones en prairie ou d'alterner des zones qui vont être tondues avec d'autres qu'on va laisser un peu plus, d'alterner, voilà, laisser fleurir des pissenlits, des pâquerettes. À ce titre, les 2 mois qu'on vient de passer ont été, je pense, une aubaine pour tous nos insectes qui ont dû en profiter pour se régaler sur tous ces bords de route, ces espaces publics, ces pelouses de résidences privées, voilà, tous les lieux de copropriété, etc., qui étaient enfin un peu plus sauvages.
Voilà, donc on peut lever le pied aussi sur la tonte dans les jardins, tout simplement.
Oui, voilà. On va laisser fleurir, ça sera, voilà, c'est un peu plus gai, un peu plus joyeux, ça donne des univers un peu moins stériles visuellement, mais surtout, c'est réellement important pour toute une vie qui s'y développe.
Et quand on achète du miel, est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses ?
Alors, le plus sécurisant, c'est évidemment le circuit le plus court possible, comme pour toute alimentation, puisque là, on a des rapports de confiance directs avec les gens. Donc, par exemple, on vend quasiment que en vente directe ou alors vraiment par un seul intermédiaire. Mais après, lorsqu'on achète dans des circuits de distribution, il est très important d'apprendre à lire les étiquettes, premièrement. Donc, tout ce qui est appellation, très souvent, on trouve origine UE et non UE. Donc, bon, ben là, clairement, on n'a aucune traçabilité, on ne sait pas d'où il peut venir. Ce qui ne veut pas dire en soi que c'est automatiquement mauvais et que tous les miels français sont formidables et tous les miels étrangers sont mauvais et du vol et de l'arnaque. C'est pas aussi simple que ça. Mais effectivement, les apiculteurs français ont besoin d'être soutenus dans leur filière. Donc ça va être la première chose, hein. C'est bien lire l'étiquette et puis se méfier par exemple des miels, entre l'alimentation de grandes séries industrialisées et très grandes quantités et plus petites quantités, il y a forcément des modes de production derrière qu'on peut qualifier de moins vertueux lorsqu'on a des choses très très standardisées, comme par exemple les miels liquides en pipette ou en doseuse. Il faut savoir qu'un miel liquide, je parlais de cristallisation, un miel ne peut être liquide que s'il est de certaines origines florales. Donc si ce n'est pas, pour les miels français par exemple, un miel d'acacia ou de forêt de sapin, un miel toute fleur ne peut pas être liquide, il cristallise forcément en quelques mois. Donc ça c'est des miels par exemple qui ont été chauffés et qui ont perdu toutes leurs vertus nutritionnelles.
Bien, merci pour ce tour d'horizon, Laurence. Pour finir, je pense à nos auditeurs qui seraient tentés par l'apiculture. Alors, auriez-vous peut-être un conseil pour débuter?
Ah oui, bien sûr. Ils peuvent déjà contacter l'association L'Abeille Aurélienne, qui a un rucher-école près de Chartres, qui dispense, alors évidemment, malheureusement, en ce moment, ça a été mis un peu en sommeil, mais je suis sûre que tout ça va reprendre dès que possible. Voilà.
Un grand merci à vous, Laurence, très bonne continuation et à bientôt dans Touches et Terres.
Merci à vous.